Bien, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à cette séance de la rétrospective Claude Lanzmann, le lieu et la parole. Merci beaucoup de votre abnégation à vérifier l'ouverture ou la fermeture du centre Pompidou. Je ne peux pas vous dire autre chose que la situation est très volatile et très incertaine. Voilà, on apprend à peu près en même temps que vous, si le centre est ouvert ou non. Donc, je vous invite vraiment à vérifier et que cette rétrospective ne souffre pas trop de cette situation. Donc, à cette invitation, Luc Dardenne, vous avez répondu simplement « Je viendrai rendre hommage à Claude ». Voilà. Après avoir vérifié, comme il se doit, votre agenda de travail avec votre frère Jean-Pierre, pardon, vous avez donc accepté. Alors, est-ce que je dois présenter le co-auteur de La Promesse, de Rosetta, du fils, du gamin au vélo, du jeune Ahmed, et tout dernièrement de Tori et Lokita ? Je choisis non. Je ne vais pas le présenter, mais en tout cas, nous sommes très reconnaissants de votre venue, cher Luc, et plus encore dans les circonstances que je viens de décrire, où nous avons été à deux doigts de trouver asile dans votre Wallonie natale, puisque nous avons failli faire la séance à 17h30 au centre Wallonie-Bruxelles, le voisin, si nous n'avions pas pu être ici. Donc je remercie au passage Louis Elliot et le centre Wallonie-Bruxelles, et je vous demande d'accueillir Luc Dardenne.
Voilà, je suis honoré par le fait que je puisse rendre hommage à Claude Lanzmann, qui est devenu mon ami en 2003, pardon, quand mon frère et moi avons écrit un texte dans le journal Le Soir pour soutenir Israël. Et il a dit, on n'a jamais dit ça d'Israël, je veux voir ces gens. Et c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Il venait, je crois, présenter un numéro des temps modernes à Bruxelles dans une librairie. Et on est devenus amis. Voilà, jusqu'au bout. Alors, j'ai dit deux choses. J'ai déjà rendu hommage dans le livre à propos du cinéma de Claude Lanzmann. Et j'avais dit deux choses qui nous avaient apprises. Et je les redis très brièvement. Il nous a appris, quand on a vu Shoah en avril 86 à Bruxelles et à Liège, il nous a appris au fait qu'un film, une œuvre d'art, peut inverser le temps biologique. C'est-à-dire que le temps biologique est le temps de la guérison, le temps où les choses se réparent, où les traumas s'oublient ou, en tous les cas, tentent de s'oublier. Et le film, quand je l'ai vu, eh bien, il m'a traumatisé. Et j'ai jamais oublié. Je suis toujours resté attaché à ces hommes, ces femmes qui parlaient dans le film Shoah. Et ça, que le cinéma puisse arriver à inverser ce temps de la guérison, de l'oubli, c'est extraordinaire. C'était une vraie découverte. Et d'ailleurs, nous avons commencé à faire nos premiers films de fiction fin 86, 87. Et j'ai jamais oublié ce film. Et la deuxième chose dont on a beaucoup parlé, qui est l'image, y a-t-il des images, pas d'images, etc. Alors, qui en est ou qui en est pas de la mise à mort, c'est, pour moi, c'est pas la question. La question, c'est que Claude a su qu'il fallait faire l'ellipse de toute façon, de toute image. Et que c'est par la voix, les paysages qu'il filme, mais surtout la voix et les visages qu'il allait réussir à nous, spectateurs. Bon, je suis né après la Shoah, donc peu importe si on a vécu ou pas à ce niveau-là, je pense que le film a cette capacité, par les voix, par les regards, des gens qui parlent, des hommes et des femmes qui parlent, et la capacité de vous habiter, de vous faire ressentir une chose qui va rester et que l'image, contrairement aux images que malheureusement là, ces salopards du Hamas ont faites avec leur GoPro, ce sont des images évidemment où la personne qui meurt, c'est ce qu'ils tentent en tous les cas, la personne qui meurt, vous ne la voyez pas mourir, elle ne parle pas avec vous. C'est juste l'image qui est là. Et la personne quitte l'image. Pour employer un terme qu'Emmanuel Lévinas employait quand il parlait de l'image, du danger de l'image, même le visage qui devient une image, une caricature de soi, il dit le quelqu'un disparaît. Mais dans les films de Claude, celui-ci comme tous les autres, mais précisément le quelqu'un ne disparaît pas. Il est là. Et il vous habite toujours, quand vous avez vu le film, il reste. J'ai revu le film ici deux fois, le film dont je vais parler un peu. Des choses que je n'avais pas oubliées, c'est d'ailleurs de celle-là que je parlerai le plus, qui était restée. Et ce film, Sobibor, 14 octobre 1943, 16h, la précision est importante. Et, le problème, je crois, ici, on n'est pas devant un film, on l'a vu, on n'a pas vu, donc on ne parle pas du film parce qu'on n'a pas vu. Hein. Bon. Donc je parle même si je parle de la fin du film, ce n'est pas, comme on dit aujourd'hui, divulgâcher le film. On n'est pas là pour cela. Mais je dirais la première chose, pour moi, quand Sobibor, c'est la voix de Claude. Et la voix qui sera là au début, qui sera là à la fin, comme elle n'est jamais, dans d'autres films, et la voix de Claude qui va avec l'interprète, très importante, parce qu'elle va dilater le temps aussi. Et ça, on le constate, ce moment-là, c'est quand cet homme, Yehudi Lerner, hein, quand Lerner parle, et qui raconte ce qui s'est passé, ce qu'il a fait, comment il a tué cet Allemand et comment il a donné le deuxième coup au deuxième, ces deux géants allemands, maîtres de la vie et de la mort, de tous les Juifs qui étaient là. Quand la voix de Claude parle, questionne à travers l'interprète, parce que Claude ne dit pas « vous », il dit « il ». Il a dit « qu'a fait M. Lerner et qu'a-t-il fait ?» Parfois, il dit « vous », mais c'est… Et l'interprète prend du temps aussi pour traduire, et ça crée une attente très forte qui fait que on a une vraie, je dirais un vrai suspense. On attend comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui était prévu, est-ce que ce qui était prévu s'est passé comme c'était prévu, et on entre dans des choses très minutieuses, très précises, et c'est important évidemment, comme toujours dans les films de Claude, le lieu et le temps. Et évidemment, c'est aussi important pour que ça ne puisse pas être nié plus tard. Comme plus tard, ça fait déjà un petit temps que certains essayent de nier. Et donc là, c'est important. Et je dirais que la voix de Claude qui est là au début, durant tout le film, qui organise l'intrigue et qui est là à la fin, pour citer les noms de la liste des convois, eh bien, c'est vraiment comme si tout le film, je dirais, était organisé, était écrit, était pensé avec sa voix. Et ça, je pense que c'est plus dans ce film-ci que dans les autres. Et je dirais que, je me souviens que Claude, je ne sais plus dans quelle interview, il dit « je ne pouvais pas mettre Sobibor, la révolte de Sobibor, dans Shoah. » Dans Shoah, je raconte la mise à mort des Juifs par les nazis. Ici, c'est l'intrigue inverse. Inverse, non seulement dans la direction, mais aussi dans le sens, dans la signification. Et donc, il disait, il n'y a pas de proposition concessive dans le cinéma. C'était sa manière à lui de parler, de dire, bon, on ne peut pas dire, il se passe le massacre, l'extermination, la mise à mort des Juifs, et quoique aussi, il y a eu une révolte. Non, il dit, en cinéma, l'image... Je crois qu'il dit l'image est là, le film est là, et on ne peut pas raconter des choses différentes. Il fallait consacrer un film à part à Sobibor et à Lerner. Et je crois qu'il a raison. Il a bien fait de faire cela, et de ne pas introduire le personnage de Yehuda Lerner ici dans Shoah. Alors, une autre chose que je veux dire, c'est que ce personnage, cet homme qui a 16 ans, cet homme qui va donc décider avec d'autres, parce que d'ailleurs souvent il parle de ses amis. C'est rare, il y a un ami dès le début, puis il a fait plusieurs camps, enfin, il y a toujours quelqu'un d'autre avec lui, et il veut vivre. Ça c'est son, il est jeune, et il veut vivre. Il veut pas mourir de faim, il veut pas mourir de froid, il veut toujours vivre. Il dit, je préfère encore mourir que de vivre comme ça. Et c'est vraiment un homme, on sent dès le départ que c'est un homme de la vie, et que c'est ça qu'il a choisi, et que tout ce qu'il va faire, c'est au nom de la vie. Et quand il raconte tout son comment ils vont tuer ces Allemands et comment lui va s'y prendre, il dira, dès le début du film, dans un gros plan, parce qu'après, il va disparaître, son visage va disparaître pendant un certain temps, c'est aussi pour ça que c'est un film sur la voix plus que les autres. Pendant un petit quart d'heure, on ne verra plus ce visage. On le voit au début du film, après les officiers SS qui saluent leur mort, les morts qu'ils ont donc été tués par la révolte, par Lerner et d'autres, et les autres, les 11 qui ont été tués, on va voir vraiment cet homme qui, comment vais-je dire, qui sourit et qui vous dit, bon, on a fait ça, il fallait le faire, il y avait la peur, on était moins que rien, eux représentaient les maîtres, les Allemands étaient les maîtres, on était moins que rien, parce qu'il répond à un moment donné à Claude, il dit, mais non, moi j'ai jamais tué, c'est par ça que ça commence, j'ai jamais tué. Donc j'ai jamais tué, ça veut dire que je suis pas un soldat, je suis pas un professionnel non plus du meurtre, et simplement je me suis inventé meurtrier pour venger tous ceux qui étaient morts et pour libérer le camp, si possible. Ce qui est arrivé, puisque c'est dans les 3 révoltes qu'il y a eu dans la Shoah, c'est une qui a réussi. Il y a eu 53, je pense, personnes qui ont pu 53 détenus qui ont pu échapper finalement, parce que les autres ont explosé. Sur les mines autour du camp, où ont été rattrapés ou tués par les Ukrainiens qui étaient dans les tours, dans les miradors. Mais donc, cet homme qui n'a jamais tué va décider d'organiser ça avec d'autres, pas seul, d'organiser avec d'autres ce meurtre, cet assassinat des Allemands, des officiers allemands. Et c'est formidable parce que je dirais c'est vraiment une. Je crois que Claude le dit à un moment donné dans une autre interview. Il dit c'est quand même c'est la construction du courage. Le courage c'est pas une chose comme ça qu'on n'a pas. Il faut conquérir le courage. Et pour cet homme qui a jamais tué, qui est là avec une hache hyper aiguisée, etc., mais qui va devoir tuer, qu'il a jamais fait, il faut. C'est une épreuve. Il faut avoir du courage pour faire ça. Il faut être habité par, évidemment, une haine, une saine haine, c'est-à-dire celle de venger tous ceux qui étaient tués, qui avaient été tués avant qu'il n'arrive et qui étaient encore tués pendant qu'il était là, qui étaient gazés. Et donc, je dirais que ce que le film, ça je l'avais dit à Claude, pour moi, ce que le film m'a dit tout de suite, c'est que généralement, surtout quand on parle des démocraties dans lesquelles nous vivons, on distingue toujours la vengeance de la justice. On dit attention, on ne se venge pas, on fait justice. Et ici, il y a une association, je dirais salutaire, juste, entre la vengeance et la justice, c'est-à-dire la vengeance de la condition de vie dans laquelle ils se trouvaient, ceux qui ont attaqué les Allemands, qui les ont tués, mais aussi la vengeance de tous ceux qui étaient morts et qui allaient encore mourir ailleurs, et qui étaient morts là-bas. Et ça, je pense que, il le dit à Lerner, il le dit, c'était pour tous ceux-là, et aussi pour le fait d'avoir réussi son coup, évidemment, de ne pas avoir raté, d'avoir bien tué le géant, hein. Et Arnaud disait, il y a un côté biblique dans ce geste du petit homme, si je peux dire, du jeune garçon qui tue le géant avec un coup de hache juste au milieu du crâne. Et donc, ce geste-là qui raconte et toute la révolte de Sobibor, il me semble que Claude répète cela dans son film. Et que c'est pour ça qu'il a tenu à mettre la liste à la fin des convois des Polonais, des Juifs de Pologne qui étaient venus des territoires polonais non occupés par l'Allemagne. Et donc, il dit tous ces noms, c'est pas seulement un générique de fin où on peut se lever en disant « bon voilà, le film est fini », non, il faut écouter, il faut rester, écouter tous les noms. Et ça, c'est une manière, je pense, que le film répète le geste de vengeance, de juste vengeance, de justice de Lerner. Le film refait la même chose en nous mettant tous les noms au nom desquels il a tué les Allemands. Voilà. Et évidemment, je ne l'ai pas dit parce que ça va de soi, que par rapport à tous ceux qui ont prétendu, dont Hannah Arendt, par exemple, ont prétendu que les Juifs étaient allés vers la mort sans se défendre, sans se révolter, etc., sans broncher et tout. Évidemment, ici, nous avons la preuve du contraire. Voilà. Et que non seulement nous avons la preuve du contraire, mais en même temps, et ça, il y a un plan magnifique qui m'est revenu. Quand j'ai vu le film, je n'avais jamais oublié ce plan-là. C'est l'arrivée à Sobibor. Pour ceux qui l'ont vu, hein, je n'ai pas demandé à Claude, mais peut-être quelqu'un le sait, on m'a dit que Mme Kaufmann était là. La caméra a l'air d'être à la place du conducteur, un peu comme le conducteur dans Shoah. La caméra est là et on avance sur les rails de Sobibor. Et puis il y a le panneau sur la gare. Et tout est désolé. Et là, vous vous dites, ça, précisément, c'est la désolation, l'isolement, l'abandon que les Juifs ont connu en Europe. Et ça, vous sentez ça. Là, il n'y aura pas de témoins, ils vont tous disparaître, personne ne saura rien. Les maîtres vont décider et l'arbitraire va régner. Il y aura. On est vraiment dans une situation. Je dis ça parce que je rappelle un peu ce que disaient certains en disant les Juifs sont allés là et ne se sont pas défendus. Mais s'il y en a effectivement qui sont allés là en espérant ne pas mourir, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire d'autre? Parce que dans nos pays, et par exemple en Belgique, j'ai produit un film sur les enfants cachés. Qu'est-ce qu'il y avait? Personne, à part ces structures où les femmes abandonnaient leur enfant pour qu'ils vivent après et qu'elles étaient emmenées avec leur mari, etc. Je veux dire, ces gens étaient seuls, perdus, ils savaient que faire. Et déjà, sauver son enfant, c'est un geste d'un courage extraordinaire et un geste de vie. Mais en même temps, toutes ces populations qui sont parties, personne n'était là, personne pour ouvrir sa porte, au contraire, les dénonciations pleuvaient. Donc, c'est ça, dans ce plan, ce qui est extraordinaire, on retrouve ça dans Shoah aussi. Mais ici, dans Sobibor, ça m'est resté parce que vous avez le sentiment que vraiment, on arrive là, déjà, on va mourir. Il n'y a pas d'autre issue possible. Et ça renforce évidemment la révolte de ce jeune homme, parce qu'il a 16 ans, 17 ans à peine, ça renforce la révolte de cet homme et qui est beau et qui sourit. Et c'est ça qui est magnifique parce que, et je terminerai là-dessus, Claude dit, la parole vive de Yehuda Lerner, et c'est vrai que sa parole est vive, mais il y a aussi un sourire et une joie. Et il dit, quand j'ai fait ce que j'ai fait, j'étais joyeux, j'avais une certaine joie. La joie d'avoir vengé tout le monde et d'avoir réussi mon coup et d'avoir... Il ne savait pas encore à ce moment-là libérer le camp, ce qui a été effectivement le cas. Les gens ont pu s'évader, les détenus ont pu s'évader. Voilà, je vous remercie pour... je suppose que... Voilà, on ne discute pas, on regarde le film. Voilà.
Bonsoir, je vous présente Francine Kaufmann à mes côtés, donc l'interprète, on pourrait dire l'une des trois interprètes du film. C'est un film à trois voix, mais elle est doublement interprète, puisque Francine Kaufmann donc, a assuré la traduction pour Lerner et d'autres de l'hébreu vers le français. Voilà, donc...
Et de français en hébreu.
Et de français en hébreu, bien sûr. Je vous demande de l'accueillir. C'était pas tout à fait prévu et c'est d'autant plus émouvant, je crois. Merci beaucoup, Francine. C'est, je crois, vraiment l'occasion pour vous de poser des questions. Le temps que je trouve ma question, parce que je suis un petit peu ému, du coup, j'ajoute que Francine, alors maintenant on dit si tout va bien, le 3 décembre sera là pour accompagner la deuxième époque de Shoah. Et je pense qu'on parlera aussi de langue et de traduction. Je vais poser une question très simple et quand même très importante. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment est-ce que vous êtes arrivé à être l'une des interprètes de Shoah? Enfin, du tournage de Shoah.
Du tournage. C'était en octobre 1979. Excusez-moi, j'ai un peu la voix prise. Donc évidemment, ça remonte à très loin. C'est très loin. J'ai fait un doctorat de littérature sur la Shoah, sur André Schwarzbart, mais aussi la littérature de la Shoah en général. Mes parents se sont connus dans le camp de Drancy. Et maman a pu en sortir parce qu'elle avait 17 ans et elle est entrée dans la résistance. Et mon papa a été déporté sur Sobibor, le convoi 53. Mais il avait prévu déjà à Drancy de s'enfuir par le plancher du train. Donc il n'est pas arrivé à Sobibor, je vais pas vous raconter toute son histoire. Il a été repris, il a été interné à Auschwitz, Varsovie, Dachau. Et il a survécu. Et c'est comme ça que je suis née. Mais évidemment, quand on naît à Paris de parents qui ont cette histoire, et puis évidemment toute ma famille, c'est quelque chose qui marque. Alors je sais que tous les enfants de déportés, bon, moi je suis l'aînée, il paraît qu'on est les bougies de la Shoah. C'est comme ça qu'on nous appelle en Israël, les aînés des familles. Et je sais que tout le monde n'a pas écrit sur la Shoah, travaillé sur la Shoah, mais enfin moi, ça me paraissait une évidence. Quand j'ai fait mon doctorat, je pensais que je devais écrire sur un sujet qui allait me prendre quelques années, et donc ça devait être sur la littérature de la Shoah. Alors déjà, j'étais marquée par la Shoah. Deuxièmement, j'ai commencé en 70 à travailler dans la presse juive, et en 71 à l'émission de José Eisenberg de la deuxième chaîne de télévision, et donc je faisais de la télé. J'avais l'habitude de présenter, de préparer et de parler au micro. Et ensuite, pour José Eisenberg, je me suis retrouvée en Israël, où je rêvais d'habiter depuis que j'étais petite, et c'était le mois d'août, septembre, octobre 1973. Guerre de Kippour. Je me trouve en Israël et évidemment, je veux plus rentrer en France et je deviens bénévole à la radio israélienne. Je reste jusqu'au mois de janvier et en 74, je fais mon aliyah. Je coupe tout, j'annonce à la fac, j'enseignais l'hébreu et la littérature à Paris 3, j'annonce que je pars en Israël et je me retrouve à la radio israélienne où j'avais donc commencé à travailler. Et encore une fois, habitude du micro, habitude de faire des interviews. Et il se trouve qu'en 77 arrive Sadat et qu'on cherche des interprètes. Et comme je travaillais à la radio et que j'enseignais à la fac la traduction et l'interprétation, on m'a présenté à quelqu'un qui organisait l'interprétation. Je suis devenue interprète. Je ne vais pas vous raconter toute cette histoire, mais j'étais donc interprète quand Claude Lanzmann arrive en Israël en 79 pour chercher des interprètes. Alors, on m'a dit qu'il avait trouvé d'autres personnes, mais que ça ne lui convenait pas. Et il appelle la radio israélienne. Et une de mes collègues dit « Ah ! J'ai une collègue, elle connaît tout sur la Shoah, elle est interprète, pas seulement journaliste. Bon, c'est Corinna Koulmaz qui m'appelle, elle fait le lien. Et puis, elle me dit, Claude Lintzmann va vous appeler. Et Claude Lintzmann me dit, j'espère que vous n'avez pas la voix des interprètes de l'ONU. C'est pas du tout ce que je veux. Il m'a dit, je veux une voix, avec des intonations. Ce qui, effectivement, chez les interprètes, n'est pas habituel. On essaye d'être neutre. Deuxième chose, vous ne devez pas prendre de notes. Je dis, ah, ça, c'est pas possible. On va voir comment ça va se passer, mais si c'est phrase par phrase, ça va. Mais sinon, je peux pas. Alors, il me dit, je vais vous placer face à la caméra. À côté de la caméra. Et le témoin va devoir vous regarder, vous, pour qu'en fait, on ait l'impression qu'il regarde la caméra. Si vous prenez des notes, vous êtes une sorte de technicienne et il n'y aura pas de dialogue. Il faut absolument que vous écoutiez le témoin et que vous ne preniez pas de notes et que vous traduisiez. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué avec Yehuda Lerner, c'était l'enfer, parce qu'il ne s'arrêtait pas. J'essayais de lui faire des signes, vous avez vu que je rentre dans sa parole pour lui faire comprendre que ça suffit, il n'y a rien à faire. Et comme je n'ai pas pris de notes, il fallait une concentration extrême, d'autant plus que, ça c'est une autre règle, je ne savais rien sur qui Lanzmann allait interviewer, quelle était leur histoire. Au début, ça m'a pas dérangé, j'avais l'habitude, et à la radio, j'étais interprète, mais quand même, il y avait des noms en polonais, il y avait des dates, il y avait des villes, je me suis dit, j'arriverai pas. Et Lanzmann a dit, c'est très important. Je me suis dit, bon, c'est une mission sacrée, c'est pas du tout un travail d'interprète habituel, je vais accepter. Et donc j'accepte, je commence avec Dugin dans la forêt de Ben Shemen, ceux qui étaient des Sonderkommando et qui ouvraient les tombes, Zeidel, qui ouvraient les tombes, les couches de cadavres, enfin bon, une journée absolument abominable parce que je m'attendais pas à ça. C'était tellement horrible et il fallait et se souvenir de tout et traduire dehors. Bon, je passe, mais vous voyez que l'émotion monte. Et j'ai eu comme ça un mois et demi de travail avec Claude et la séquence de Lerner était en fait l'avant-dernier jour du tournage en Israël. C'était un jeudi. Je le dis parce que je sais que dans beaucoup d'interviews, Lanzmann a prétendu qu'il avait une interprète très religieuse. Bon, c'est vrai, je respectais le Shabbat, je mangeais kasher, je les embêtais avec les horaires, mais il m'a voulu. Donc, je sais que c'était un jeudi parce qu'il a dit qu'il avait une interprète très religieuse qui regardait sa montre toutes les 5 minutes parce que ça allait être Shabbat. Alors, je dément. Ce n'était pas avant Shabbat. C'était avant une autre interview que nous n'avions pas pu finir l'avant-veille avec Hana Marton. Dans Les Quatre Sœurs, vous la voyez, on n'entend pas mon interprétation, mais ça se passe exactement comme avec Lerner, elle me regarde en face, elle me parle au féminin, etc. Et il fallait qu'on termine. Et on a eu un problème de bobine, je ne vais pas rentrer dans les détails, il n'y avait plus de film. Il a dû envoyer les techniciens acheter à l'autre bout de la ville de Jérusalem quelques boîtes parce que c'était vraiment la fin du tournage. Je vous raconte ça parce que à ce moment-là, j'avais l'interdiction de parler à tous les témoins. Ça, c'est vrai pour tout le tournage. J'ai jamais vraiment compris toutes les raisons des règles de Claude Lanzmann, mais bon, il ne voulait pas que je connaisse leur histoire. Il ne voulait pas que je leur fasse raconter une première fois. Il fallait que eux racontent pour la première fois et que moi j'entende pour la première fois. C'est ce que j'ai compris. J'étais leur interlocuteur, j'écoutais, bon, premier témoin, admettons. Mais il se trouve que pendant ces longues heures où, parce que c'était loin, on va chercher des bobines, Lanzmann sort tout à coup un volume, un tapuscrit, et il commence à lire. Et je vois que c'est j'étais à côté de lui, que c'est puisque je pouvais pas être à côté de Lerner, c'est l'histoire de Lerner. Je dis, mais vous l'avez rencontré Lerner avant? Alors il me dit, Lerner c'est le seul que j'ai pas rencontré. Mais tous les autres, je les ai rencontrés avant. Et je savais ce que j'allais leur faire dire. Et d'ailleurs, je m'en étais rendu compte parce que parfois ils disaient, non, on recommence. Il faut que vous disiez comment vous avez fait ceci, cela. Et donc je sentais qu'ils connaissaient leur histoire. Et là, je me suis énervée. Je lui ai dit, quoi, vous avez tous les textes et vous voulez que je mémorise des choses absolument incroyables? Je veux lire, parce que je vais pas pouvoir me souvenir maintenant, quand ils reviendront avec les bobines, de tout ce que j'ai à traduire. Alors il m'a laissé lire et c'est là que j'ai compris dans quel cadre je travaillais. Mais en fait, j'ai été mise au secret. C'est quand même assez incroyable. Maintenant, les silences dont parlait Dardenne, c'est à la fois parce que j'avais la règle de laisser un silence, c'est-à-dire il fallait pas que les voix se chevauchent. Avec Lerner, c'est assez exceptionnel parce qu'il s'arrêtait pas. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais une partie des interviews sont coupées, c'est-à-dire qu'on n'entend plus la voix de Lerner et on entend uniquement l'histoire telle que je la raconte à partir de la traduction que j'en ai faite. Et la traduction, elle est comme le font les interprètes. D'abord, moi j'ai appris qu'un interprète doit dire « je » quand il traduit quelqu'un qui raconte à la première personne. Et je ne savais pas que la règle donnée par Lanzmann à tous ces interprètes, c'était le discours indirect. Et effectivement, il disait « demandez-lui, dites-lui ». Et à part une ou deux fois où Lerner dit « il faut absolument que tu lui expliques ça », effectivement, moi je dis « je » en traduisant, et lui il me parle, il dit « tu », et on discute. Et j'ai trouvé normal de dire « je ». Et alors que je me suis rendu compte que Lanzmann avait créé cette règle du discours indirect, il ne m'a pas reprise. Il m'a laissé traduire à la première personne du singulier tout le film. Mais je devais permettre le montage. Et comme j'avais travaillé à la télé, je comprenais très bien. On peut pas couper dans le film si les voix se chevauchent. Donc, je m'arrêtais, j'attendais pour reprendre. Et quand j'essayais de couper Lerner sans arrêt et qu'il ne s'arrêtait pas, je reprenais tout en me disant au montage, c'est comme ça que ça passera. Donc il fallait penser et au montage et au fait qu'il fallait que le regard caméra subsiste et mémoriser des choses que je n'avais pas entendues auparavant. Et ça a été une expérience tout à fait exceptionnelle. Et avec Lerner, je vous raconte donc, ça a duré quelques heures, imaginez la concentration qu'il faut pour tenir et raconter tout le récit sans se tromper. Il y a évidemment des fois où je me rappelais plus, je disais à la fin ce qu'il avait dit au début. Alors, avec l'interview de Lerner, ça passe, parce que c'est une seule interview, et ça permet quand même de garder une grande partie de l'interprétation. Dans Shoah, c'est moins évident, parce que ce sont des extraits. Et par conséquent, quand j'arrive à retomber sur mes pieds en rattrapant une phrase que je n'ai pas dite au début, mais que je sais que je n'ai pas dite, donc je la dis à la fin, dans le montage de Shoah, ces rétablissements ne peuvent pas passer. Voilà, en gros, c'est mon expérience. Si vous avez des questions, je serais ravie.
C'est à vous.
À moins que ça vous suffise.
On a eu pas mal d'informations.
J'avais réfléchi. Oui. Je veux juste vous dire que comme mon père a vécu tout ça et que j'habite Jérusalem, je suis israélienne, je suis de passage à Paris en plein milieu de la guerre, vous imaginez tout ce que je peux éprouver en ce moment. Et mon père voulait absolument que Lanzmann l'interview. Et très honnêtement, il avait vraiment des choses exceptionnelles à raconter. Je connais parfaitement son histoire et Lanzmann n'a pas voulu. Qu'est-ce que j'ai eu comme histoire avec mon père, ça c'est une autre chose. Mais je me suis souvent demandé pourquoi. Peut-être parce que mon père était français et que j'ai constaté en voyant le film qu'il n'y avait pratiquement pas de témoins français. pas de langue française maternelle. Il y a eu un grec de Céphalonie qui parlait très très mal le français. Le français, c'était Claude Lanzmann et l'interprète. Donc, est-ce que c'est pour ça ? Ou est-ce que, comme j'ai découvert qu'il avait rencontré tout le monde, mon père ne faisait pas partie du scénario. En tout cas, j'ai vécu ça aussi, c'est-à-dire rentrer à la maison et voir mon père. Mais tu lui as dit, mais tu... bon, voilà.
Il y a quelque chose, si vous en avez parlé, c'est lié à votre histoire personnelle de très bouleversant quand même de faire cet entretien avec un évadé perpétuel et de
et mon père s'était
revivre d'une certaine manière par procuration cette histoire familiale. C'est... Oui.
Mon père s'était déjà évadé, il était soldat mobilisé au début de la guerre, français bien sûr, et il a été fait prisonnier en juin 40 comme énormément de soldats français. Il s'est donc retrouvé dans un camp de prisonniers. Et il aurait pu rester dans ce camp de prisonniers, il a décidé de s'évader. Il avait la maladie de Yehuda Lerner et il s'est évadé de Bavière, d'un camp de prisonniers où il aurait été relativement bien traité comme soldat. Et il s'est retrouvé ensuite dénoncé comme juif et voilà. Il s'est évadé du train. Il a essayé de s'évader déjà de Drancy. C'était effectivement quelqu'un qui disait comme Yehuda Lerner. Moi, je vivrais. Moi, je vivrais, je peux pas vivre dans ces conditions, mais moi, je vivrais. Il a même dit à des nazis, m'a-t-il raconté, vous, je sais pas ce qu'il y aura à la fin de la guerre, mais moi, je serai vivant. Donc, effectivement, j'étais très, très concernée et je peux vous dire que je me suis terriblement identifiée à la fille de Seidel. Parce qu'il y a une interview chez eux et elle était pas prévue. Et elle, c'est la deuxième génération, donc comme moi, fille de déportée. Et quand il lui a donné la parole et que j'ai eu à la traduire, j'étais mais absolument bouleversée. Je me disais, voilà, je suis dans le fil de mon histoire et de notre histoire. Et voilà, c'était très émouvant. Oui.
Est-ce que il y a des questions ?
Sinon, j'ai encore une chose à dire sur la langue.
Oui.
Lerner parle relativement bien l'hébreu. Il est venu assez jeune en Israël. Mais ce n'est pas un bon hébreu. Des fois, on ne sait pas de qui il parle. Et ce que m'avait demandé Lanzmann, c'était de traduire en bon français. Donc, mon problème, alors avec Seidel et Dugin, c'était... Dugin, ça allait. Il parlait à peu près bien l'hébreu, mais Seidel, très, très mal. Très, très mal. Et il y avait des gens, dans ce film, la plupart n'ont pas parlé leur langue maternelle. Bien que, en yiddish, le seul qui ait décidé de ne parler que yiddish et qui parlait très bien l'hébreu, a dit ces histoires-là, parce que j'ai rencontré pour un article universitaire, comme je suis aussi universitaire, j'ai fait 2 ou 3 articles, j'ai d'ailleurs envoyé mon premier article à Lanzmann en lui demandant ses réactions, qu'est-ce qu'il peut ajouter, parce que j'avais plein d'interrogations, et il a pas voulu me répondre. Il m'a dit, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous avez exagéré le rôle de l'interprétation dans votre article. Mais il m'a absolument pas expliqué pourquoi il voulait pas que je sache l'histoire des témoins. Bon, que je prenne pas de notes, encore une fois, j'ai compris, mais c'était de la jonglerie. Mais j'ai compris, il y avait vraiment une raison technique. Mais le reste, j'ai pas compris pourquoi j'avais pas le droit de parler. Alors, les langues, il y avait des gens qui... le yiddish, j'ai interviewé en fait l'interprète en yiddish qui vivait aussi en Israël, et elle m'a dit que le témoin avait dit on peut pas raconter cette histoire dans une autre langue, et qu'il avait jamais raconté à ses enfants parce qu'il trouvait qu'en hébreu ça passait pas. Et oui, vous avez une question?
Qui faisait le choix de la langue qui serait parlée pendant l'entretien ? Est-ce que Lanzmann l'avait déjà décidé avant avec la personne qui allait parler ?
Oui, puisque moi, il m'a convoqué pour les gens qui allaient parler hébreu. Donc, c'était décidé à l'avance. Maintenant, je peux quand même vous raconter qu'un jour, Lanzmann me dit qu'il doit y avoir une interview avec... l'écrivain poète qui vit au kibboutz et qui a dirigé la révolte du ghetto de Vilna. Ça va me revenir. Abakovner, merci beaucoup. Vous voyez, c'est l'âge. Quand même, ça fait plus de 50 ans. Hein. Donc, Abakovner. J'ai habité chez Abakovner au kibboutz et j'avais pas le droit de lui parler, à part demander de la confiture. C'est précisément ce que m'a dit Lanzmann. Tu peux demander de la confiture ou du beurre, mais tu lui parles pas de... Bon, et Abakovner parlait magnifiquement l'hébreu, parce qu'il est aussi venu jeune et surtout parce qu'il était déjà poète et écrivain. Et ça devait se passer à Rosh Hashanah. Du fait que Rosh Hashanah, c'est deux jours de fête et qu'on ne travaille pas en Israël, il avait fixé Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah, moi je suis pratiquante. Là, j'ai dit non. Je travaille pas à Rosh Hashanah, je vous passe les discussions qu'on a eues, ta voix est dans le film, faut la garder, tout ça, enfin bref. Non, si je te paye plus, non. Finalement, je lui ai donné une interprète, mais qui travaillait vers l'anglais. Et l'anglais, Lanzmann comprenait. Et l'anglais était sous-titré dans le film. Donc elle était prête à travailler à Rosh Hashanah. Et j'ai jamais su ce qui s'était passé. J'ai vu les rushs des années plus tard, puisque vous savez que tous les rushs se trouvent à Washington, au musée de la Shoah, et qu'ils sont accessibles en ligne. Et j'ai entendu ma collègue, qui a été absolument extraordinaire, mais j'ai tout de suite compris qu'elle prenait des notes. Parce que c'était très long et très exact. Et la deuxième question, il s'est passé d'elle. Il s'est débrouillé en anglais directement, il n'a plus eu recours à elle. Donc je pense qu'il avait un tas de règles comme ça, qu'il s'était fixées. Les langues qu'il comprenait, l'anglais et l'allemand, il interviewait lui-même. Je pense que l'hébreu qui aurait dû être traduit en anglais, il a obtenu que le témoin parle anglais directement, sans qu'il y ait l'hébreu traduit en anglais et que lui sous-titre. Vous voyez ? Donc tout ça était certainement très, très préparé à l'avance.
Oui, merci pour le film. Merci pour votre interprétation. Et vous avez déjà couvert une partie de ma question, en fait, parce que je voulais demander si, à votre avis, les témoins lernaient, et j'imagine d'autres, parlaient en hébreu qui n'était pas leur langue maternelle. Dans quelle mesure ça colorait le témoignage, vous pensez?
Alors, j'ai écrit plusieurs articles, j'ai essayé de réfléchir à cette question, et je me suis rendu compte que c'est un témoignage sur aussi l'exil et le déplacement. Le lieu et la parole. Mais la parole, est-ce que vous savez qu'il y a une femme de Berlin vivant aux États-Unis que Lanzmann fait venir dans le film à Berlin et elle refuse de parler allemand. Elle est allemande, elle est à Berlin et elle décide de parler anglais parce qu'elle ne peut pas parler allemand. Et beaucoup des témoins auraient pu parler yiddish, mais ils vivaient en Israël. Et pour le film, ça ne l'aurait pas venu à l'idée, à part Podjewski qui a demandé donc de parler yiddish. Les langues parlées par les témoins sont les langues de leur déplacement, de leur exil. Et c'est peut-être pour ça que mon père n'a pas été interviewé, parce qu'il parlait français, il est retourné en France. Je ne sais pas, je ne le saurai jamais, j'ai pas pu en discuter avec Lanzmann et maintenant il est plus là. Et je ne sais pas qui pourrait le savoir. Mais il me semble que le fait de parler une langue étrangère, qui n'est pas la langue maternelle, était importante dans le film. Elle marquait le déplacement, le déracinement, l'arrachement. Et le fait que l'histoire se racontait ailleurs et dans une autre langue. Voilà ma conclusion.
Lerner parlant, il parlait. Vous savez quelle langue parlait
Alors,
Lerner?
Je me suis tout de suite rendu compte qu'il comprenait le français. Je suppose que
oui,
vous,
parce que
je suppose que vous le voyez. Il répond avant que je traduise. Il réagit. Il ajoute un détail. J'ai eu la même chose avec Dugin. Dugin, c'est évident qu'il comprenait le français. Il y en a. J'ai eu la même chose avec Madame Harton. Voilà, c'est évident qu'elle comprenait mes réponses et ça crée aussi parfois des problèmes parce que pendant que je traduisais, ils ajoutaient quelque chose ou ils réagissaient, etc. Donc, mais ils n'étaient pas capables de parler français, c'est-à-dire Hannah Marton ne pouvait pas s'exprimer en français, Dugin non plus et Yehuda Lerner non plus. Mais le fait de comprendre le français leur permettait de réécouter, de se dire ah, j'ai oublié ça ou... Il y a un moment qu'on ne voit pas dans le film avec Yehuda Lerner, que j'ai vu dans les rushs, et dont je me souvenais, ça a été coupé, où justement, on parle des oies. Et je lui dis, des oies ? Il dit, quoi, tu ne sais pas ce que c'est que des oies ? Je dis, bien sûr que je sais ce que c'est que des oies, mais des oies ? Il dit, oui. Et encore une fois, j'aurais lu à l'avance, j'aurais su qu'il y avait, et je ne savais pas qu'il y avait des oies dans les camps, donc j'étais sûre d'avoir mal entendu. Et tout ça est coupé, alors que je trouve que ça a un petit charme quand même. En tout cas, pour voir ce qui se passe au niveau de la langue, de la compréhension, de la surprise, etc. Ça, c'était avec Yehuda Lerner.
Bien. Allez, dernière question.
Est-ce que vous ne pensez pas que c'était à cause du rapport de Lanzmann à la France qu'il a pas voulu interviewer quelqu'un en français dans Shoah ?
Je vous ai donné les idées qui me sont venues à l'esprit, pourquoi il n'a pas interviewé mon père, c'était pas prévu, c'était un Français, il est revenu, il n'a pas vécu dans les zones d'Ercommando, mais il a vu des choses, j'ai d'ailleurs raconté à Lanzmann des choses que je sais, par exemple, quand il était, il a été pris de Varsovie, de Auschwitz avec un commando de gens suffisamment forts pour travailler dans les ruines du ghetto de Varsovie, où on a créé un camp pour récupérer tout ce qui aurait pu être caché par les Juifs. Je vous passe le détail, il a eu le typhus comme Yehuda Lerner et tout. Et dans ce camp, il sortait travailler à l'extérieur aussi, et devant la prison du Paviak, qui était juste à côté du camp du ghetto, les prisonniers, par la fenêtre, leur jetaient des bouts de pain. Et je trouve ça quand même assez extraordinaire parce qu'il y avait des prisonniers juifs, mais il y avait aussi des prisonniers polonais qui envoyaient du pain à plus pauvres qu'eux. Et autre détail, mon père a raconté qu'il y avait, lui il est arrivé en octobre, la révolte avait eu lieu en avril, et il y avait encore des combattants dans les égouts qui sortaient parfois au matin et qui tuaient les capots trop meurtrier avec les Juifs. Il m'a même raconté qu'une fois, ils avaient planté un panneau en menaçant un capot et le lendemain, il était tué. Donc, il y a eu une entraide entre les survivants de la résistance du ghetto. Enfin, moi, j'ai jamais entendu ça ailleurs. Et Lanzmann n'en a pas voulu. Alors, est-ce que c'est, vous dites, à cause de sa relation à la France ? Je sais pas. Et mon père, en plus, parlait l'allemand. Mais ça, c'est autre chose. Il est né à Metz. Je ne sais pas. Je n'ai jamais eu les réponses. J'ai voulu discuter. Impossible de savoir. Et en plus, je faisais partie de l'équipe sans faire partie. Parce que moi, j'habite Jérusalem. Je rentrais chez moi. Et l'équipe était au Dan à Tel Aviv. Je devais les rejoindre à l'hôtel. Ils avaient déjà mangé et tout. Moi, ça faisait déjà des heures que j'étais en route. Et puis, on prenait la voiture. Et puis, il rentrait à Tel Aviv et moi je devais soit prendre un taxi, soit quelqu'un me ramenait, par exemple avec Kajik qui habitait Jérusalem aussi. On est rentré avec quelqu'un de l'équipe qui nous a amenés et là c'était vendredi après-midi. Alors là j'étais folle de rage. On est parti à 6 heures du matin Et ça a traîné, ça a traîné. Et on n'a pas mangé. J'étais dans les pommes, mais vraiment dans les pommes. Hein, hypoglycémie accentuée. Et Lanzmann avait prévu un repas après le tournage chez Kajik. Et là, il était déjà 15h ou quelque chose comme ça. Et moi, c'est Shabbat. Mais c'est pas que j'ai dérangé le tournage. C'est que je voulais pas rester au repas. Je voulais rentrer avant Shabbat. Voilà. Quelques anecdotes du tournage.
Merci. On va retrouver, alors maintenant tout est au conditionnel, si tout marche comme sur des roulettes, le 3 décembre pour accompagner la projection de la deuxième époque de Shoah. La première époque sera présentée, introduite
Shabbat.
Jour de Shabbat par Wang Bing, qui n'est pas observant lui a priori. Et puis Francine a parlé des rushs également, et je vous signale que ça, c'est une séance qui n'est pas soumise à la grève, au mémorial de la Shoah ce dimanche à 14h30, je crois. Enfin, vous vérifiez sur nos sites. Donc, une rencontre autour du devenir archive des rushs. Et je crois que ça sera un moment tout à fait passionnant. Voilà. Et sinon, regardez tous les matins vers 11h si le centre Pompidou est ouvert.
Je voulais vous dire merci à tous d'être restés, parce que j'imagine, après l'émotion du film, vous aviez envie de rentrer. Et Arnaud m'a proposé d'intervenir et j'ai accepté parce que je trouvais que...